C'est la deuxième heure de ce 1272e Sweet Home Chicago. L'invité est Rod Barthé, guitariste chanteur né à Pontarlier dans le Doubs. Voilà déjà un tiers de siècle que cet éternel jeune homme promène son blues en français partout. On aime les belles résonances, les beaux accords, les harmonies et les riffs brillants. On évoque ses premiers émois musicaux avec Deep Purple. Il n'avait que 3 ans et ses débuts de musicien qui l'emmènent très vite, jeune adulte, vers l'adoubement à San Francisco par un légendaire John Lee Hooker en pleine gloire mondiale. Une rencontre dont il retient avant tout l'humilité et la simplicité. On parle d'autres rencontres importantes de Rod Barthé ayant émaillé son parcours et l'ayant parfois fortement influencé, comme Jimmy Johnson, l'humaniste, ou Alvin Lee, le guitar hero de Ten Years After, et puis d'autres qui ont laissé leur empreinte sous ses doigts, Stevie Ray Vaughan ou Johnny Winter, qui est son préféré. On replonge avec lui dans sa discographie, avec les exemples de Au bout de ma ligne ou Ascendant Johnny Cash. On rappelle sa rencontre et ses multiples collaborations depuis longtemps avec les paroliers Boris Bergman et puis maintenant Joseph Danvers. On souligne ensemble l'importance des textes dans la compréhension de la chanson, et là, Rod Barthé prend l'exemple universel de Bob Dylan, dont il a abondamment été question dans la première heure, et du fait de chanter en français, d'être compris, qui donne une valeur ajoutée au message musical. Il est d'ailleurs question de la disparition de Patrick Verbeek, qui l'a profondément touché. On parle du contenu du dernier album de Monsieur Rod Barthé, le phare des infortunes, bien sûr. On évoque des musiciens qu'il apprécie, comme Paul Persson ou Hubert Félix Stephen. On parle d'éventuelles collaborations d'artistes. Rod Barthé adorerait jouer avec Mathieu Chedid ou Manu Chao, par exemple. Sur son disque, pas moins de 3 guitaristes sont invités. Eric Sauvia, Neil Black et Fred Chapelier. Une entente parfaite, humainement comme musicalement. Un respect mutuel, sans esprit de compétition, qui force l'admiration. Car Rod Barthé a une réflexion profonde et vraie de la vie. Sa poésie touche au cœur et sa musique est à l'unisson. Un artiste dont le talent, comme tant d'autres, devrait bénéficier d'une vision bien plus large encore. Une date à noter sur votre agenda, Rod Barthé sera en release party le lundi 19 mai au New Morning à Paris avec Eric Sauvia, Neil Black et Fred Chapelier sur scène. Un rendez-vous à ne pas manquer. On écoute un premier extrait de cet album.
De blanc drapé, tu tournes par rond, t'as froid au cœur de l'été. Elle n'appartient qu'à toi, c'est le diable en ange déguisé. Elle danse pour toi, t'es son unique passager. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Juste te voir sourire. Tu cours après les illusions qu'elle te promet. Elle court après tes désirs si loin repoussés. Une dernière fois, après elle disparaît. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Juste te voir sourire. Allez, elle aimerait le voir sourire. Souris un peu. T'implore quand tu t'en vas, ne m'abîme pas quand tu ouvres tes bras. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Te voir sourire, oh, te voir sourire. Elle voudrait juste te voir sourire. Qu'en secret tu oses la chérir. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Elle voudrait juste te voir sourire, t'offrir le frisson du plaisir. Juste te voir sourire. Sourire un peu.
Rod Barthé, te voir sourire. Voici cette interview. Rod Barthé, bonjour.
Bonjour Marc.
Rod Barthé, voilà, pour les auditeurs, on va te situer. Rod Barthé est né à Pontarlier, un artisan du blues rock en français, mais pas seulement, on va le voir, sur les routes depuis un tiers de siècle, on peut dire ça hein, déjà.
Ouais, un peu plus de 30 ans, ça fait presque 33 là maintenant, 33. Ouais.
Voilà, tu as déjà joué dans plein de pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, on va en parler, la Macédoine, la Grèce, la Turquie, le Mexique, la Suisse, l'Espagne, la Slovaquie, l'Équateur. On attend un concert important pour la release party de ton nouvel album Le Phare des Infortunes, lundi 19 mai 2025 au New Morning à Paris, avec trois invités de renom qui figurent sur cet album, Fred Chapelier, Neil Black et Eric Sauvien, on va en parler. Mais si tu le veux bien, pour articuler un peu le début de cette interview, et puis aussi pour que nos auditeurs te situent bien, on va se baser sur ta bio qui est déjà très très complète, mais à propos de laquelle j'aurais peut-être quelques petites questions à te poser au fil de l'eau, si tu veux bien, Rod.
Oui, pas de soucis.
Ouais, en fait, il est écrit dans cette bio que tu découvres vraiment très très tôt l'univers du rock, ce qui m'avait un petit peu interpellé. Dès l'âge de 3 ans, tu assistes à ton premier concert, c'est Deep Purple.
Ouais.
Voilà, et ça, c'est un groupe qui existe toujours, hein, qui s'était formé en 1968, donc avant ta naissance, mais on sait que c'est un groupe qui existe toujours. Et est-ce que c'est toujours un tes groupes préférés, puis un groupe que tu continues à écouter?
Alors oui, je continue à écouter avec grand plaisir Deep Purple. Après, un groupe préféré, je dirais pas, mais un groupe que j'aime beaucoup, oui, ça c'est sûr, oui.
C'était également un des groupes préférés de Fred Chapelier, qui avait enregistré un My Rockers à propos ouais. de Deep Purple, d'ailleurs, justement. Et puis, vers l'âge de 12 ans, tu t'isoles dans le garage familial avec une guitare empruntée aux grandes dames de ta grand-mère, dis-tu, qui voit ses premières années de retraite troublées par tes expérimentations musicales. Ça faisait beaucoup de bruit à l'époque, c'est ça?
C'était à l'époque des années 80, le plein boom du punk. Alors, c'est vrai qu'on était tous punk à l'époque. Je veux dire, c'était la mode. Hein. Donc, on était tous punk, bien sûr. L'énergie brute, hein, le punk. Hein. Donc, la guitare s'envoie sévère.
Et puis, dès 14 ans, Rod, tu fondes ton premier groupe qui s'appelle Fire Blast, où tu t'exprimes déjà une certaine révolte face à la société de consommation. Est-ce que cette révolte-là, de tes premières années, est-ce que ça émaille toujours ton univers musical actuellement?
Disons que, comme moi, oui, dans les années 80, c'était le punk. Disons que j'ai toujours un petit côté punk, on va dire, qui reste en moi, ça c'est clair, quand même.
Et ça transparaît pas forcément dans ta musique, mais alors à ce moment-là, c'est dans la vie, c'est dans ta façon de voir, ta façon de faire les choses, c'est ça?
Dans ma musique, par moment, parce que j'ai quand même des morceaux qui s'orientent pas mal rock, des fois. Ouais. J'aime bien avoir un morceau rock quand même assez péchu à chaque fois, et je puise aussi cette énergie là-dedans. Non, dans la vie, j'ai pas de côté, je suis rangé, j'ai pas de comment, je suis pas un punk.
Et puis ensuite, une fois l'adolescence terminée, jusqu'à l'âge de 20 ans, tu étudies à l'école de musique de Nancy. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette école de musique de Nancy, et qu'est-ce que ça t'a apporté qui te sert toujours actuellement, Rod?
En fait, ça m'a apporté la rigueur du travail, en fait, et puis aussi des rencontres dans les couloirs, on croise des gens en fait, qui jouent de la guitare, puis on les voit, on dit ah, tiens, tu es en train de jouer quoi, tout ça, donc on donne une espèce d'émulsion, et puis ça m'a permis d'affiner aussi mon approche de la musique de façon professionnelle.
Et puis il y a eu beaucoup de rencontres aussi, notamment grâce à un premier voyage à San Francisco qui te permet de côtoyer pas mal de gens. On en avait parlé il y a 5 ans dans la première interview, ouais. Notamment à propos de Johnny Hooker. I ain't going down, be rolled by myself. Uh-oh. I ain't going down, be rolled by myself. Can't take you, baby. Johnny Hooker qui t'a quand même ouvert de belles perspectives. Et je voulais savoir, après toutes ces années, parce que 1991 c'était hier, ou peut-être avant-hier, avec le recul, comment est-ce que tu vois cet adoubement en quelque sorte par l'un des géants du blues comme Johnny Hooker?
Disons que c'est, on va dire que ça reste la rencontre la plus marquante de ma carrière, hein, puisque c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'étais au bon endroit au bon moment. Ça m'a permis aussi de voir qu'il fallait rester humble toujours dans la vie, hein, puisque lui il était très humble, hein, c'était quelqu'un de très simple. Et donc, je dirais, j'ai reçu un enseignement quand même assez fort en le rencontrant, à ce point de vue-là, au point de vue de la vie, quoi. Persiope, ouais, était incroyablement accessible. Hein.
Alors que beaucoup de gens le considèrent actuellement comme un dieu et l'ont mis sur la même hauteur de piédestal que B.B. King ou Muddy Waters.
Bon, exactement, c'est sûr.
Ouais. Ouais, qui eux aussi savaient rester humbles à leur manière. Il y a eu d'autres rencontres marquantes, et également Jimmy Johnson, un garçon qui nous a quittés il y a déjà trois ans, que tu qualifies d'humaniste, je crois.
Ouais, ben en fait, lui, en fait, j'avais fait sa première partie à Vesoul dans un théâtre et j'étais allé le voir gentiment, comme ça se fait tout le temps maintenant dans le blues, on dit est-ce que je peux faire le bœuf avec vous, monsieur, et tout. Et puis il me dit oui, il n'y a pas de problème, je t'appellerai et tout. Puis, donc il m'avait appelé effectivement sur scène, mais il a fait plus que ça parce qu'il a appelé l'ensemble de mon groupe en fait. Ah, et oui. on s'est retrouvé à un moment donné à être le backing band de Jimmy Johnson et c'était fabuleux.
Il y a une autre rencontre qu'on n'avait pas développée mais qui est importante à mon avis, qui retransparaît dans ta bio, Rod, c'est celle de Alvin Lee de Ten Years After. Alvin Lee de Ten Years After. En quoi est-ce que ça a été une rencontre importante pour toi ?
Pour moi, c'était incroyable de rencontrer quelqu'un comme lui. On a tous été marqués, en fait, les guitaristes, par sa performance à Woodstock, à Buenum. Et donc, quand on se retrouve à côté de quelqu'un comme ça dans la loge, on se dit, mais là, c'est pas possible, quoi. Puis de voir, pareil, qu'il était très accessible, très humble, très gentil, très souriant, très avenant, je veux dire. Et à ce moment-là, il y avait aussi Mick Taylor des Rolling Stones, qui était dans la même loge, qu'on avait rencontré aussi par la même, et qui est aussi un sacré monsieur, la guitare slide, hein, que tout le monde connaît pour son travail avec les Rolling Stones. Et donc voilà, il était là aussi. Oui, Ten Years After, Alvin Lee, c'était quelque chose aussi d'important, très important. Il y a aussi des personnes aussi que j'ai failli rencontrer, que j'ai pas rencontré aussi.
Mais des gens en tout cas peut-être qui t'ont influencé quelque part, que ce soit des rencontres que tu as faites aux États-Unis ou ailleurs. Il y en a quelques-uns parmi eux qui ont influencé véritablement ton jeu de guitare, Rod.
Alors mon jeu de guitare, moi comme tous, hein, je veux dire, on a tous été influencés à un moment donné par ce revival de blues, les guitaristes en particulier par Stevie Ray Vaughan. Hein.
Oui.
Lui, c'est un tsunami. Quand il est arrivé, nous, les gratteux, on était tous en admiration devant lui. Donc, on était inspirés par lui, par Albert King, moi, qui était aussi le mentor de Stevie Ray. Les trois Kings, je dirais, Freddie King, Baby King. Pour moi, en tout cas, ce que je dis tout le temps, moi, si je devais en citer qu'un, si tu me disais, cite un guitariste que tu adores, ouais, moi, c'est Johnny Winter. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, none. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but nah. Next time you see me coming, man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Johnny Winter, d'accord. Voilà. Donc pour moi, c'est lui, en fait. Je l'ai vu plusieurs fois en concert. Notamment à San Francisco, je suis allé le voir deux fois de suite.
Oui, ça veut dire que tu ne l'as pas seulement vu, comme certains, dont moi, à la fin de la carrière, tu l'as vu en pleine forme. Hein.
Ah oui, oui, je l'ai vu, moi, il maîtrisait son sujet. J'étais devant lui en admiration, comme si j'étais devant Dieu, en fait. Hein. J'étais à un mètre de lui. D'ailleurs, quand j'étais rentré du concert avec mes roommates là, à San Francisco, il me dit, alors c'était comment? Je dis, c'était magique. J'étais à un mètre de lui. C'était une folie. Et puis voilà, quoi. Pour moi, c'est lui, en fait, voilà, le guitariste, si je devais en citer quelqu'un.
Johnny Winter. Ouais. Il y a tout plein de rencontres, Rod, qui émaillent ton parcours. Et puis, si on se retranspose à la fin des années 90, là, tu retournes aux États-Unis pour enregistrer un album. Tu partages l'affiche avec plein d'artistes. Je peux lire Bo Diddley, Wilson Pickett, Vinnie Taylor, dont tu viens de parler, Joe Louis Walker, Roy Rogers, etc. Ensuite, il y a cet album, Au bout de ma ligne, Changer d'horizon d'abord. Et puis, tu collabores donc à cette occasion avec un certain Boris Bergman. Ça fait déjà un quart de siècle que tu le connais. Quel a été son apport dans ton approche de la musique en tant que songwriter, Boris Bergman?
Disons que, en fait, moi, à ce moment-là, donc l'album, tu parlais de Changer l'horizon, cet album-là, c'est un album hybride, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des textes qui sont chantés en français, l'autre en anglais. Ouais. Donc, ça remonte à 98, donc ça fait déjà un petit moment que je pensais chanter en français. À ce moment-là, j'étais sur le label Dixie Frog et Philippe Langlois me disait, mais tiens, tu ferais pas un album en français complètement? Mais je lui dis si. Puis il me dit, qu'est-ce que tu voudrais faire quelque chose? Je dis, moi, j'aimerais bien rencontrer Boris Bergman. Et puis, il me dit, ben, je connais un attaché de presse, donc Yazid Manou, qui le connaît bien, on va lui demander. Donc on lui a demandé, il a accepté, moi je l'ai rencontré, on s'est vu, on s'est revu, on s'est perdu de vue, comme dit la chanson, voilà. Donc on a un parcours qui est émaillé de rencontres, tout ça, et donc on a commencé à collaborer. Et c'est vrai que l'album, Au bout de ma ligne, bon, c'était notre première collaboration. Or, comme on dit toujours, dans une première collaboration, on se découvre, tout ça. Je pense pas que ça soit les meilleurs textes qu'on ait fait ensemble. Je pense que les meilleurs textes qu'on a eus ensemble, c'est dans l'album Ascendant de Johnny Cash, donc où il y a justement Boris Bergman qui m'a écrit ça. Et c'est vrai que voilà, maintenant avec Boris, c'est sûr que s'il m'écrit un texte, on se connaît tellement maintenant, pratiquement depuis 30 ans, moi je me gêne plus déjà pour lui dire si ça me plaît pas ou si ça me plaît. Et lui me connaît, c'est-à-dire qu'il va écrire, il sait à peu près, voilà, il m'a à peu près jaugé. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus abouti que cet album-là, quoi.
Sur mes bras ballants, ils n'ont eu qu'un temps. Je t'en prie, dessine-moi un trampoline. Encore une fois, amour fait ferrure, tiens plus la couture.
Et puis ensuite, au début des années 2000, tu parlais de Dixie Frog, mais là, tu fais un choix audacieux. En prenant le chemin de l'autoproduction totale, tu sors Je te promets, Sous une bonne étoile. Et là, il y a toute la gestion artistique et financière de tes projets qui repose sur tes épaules. C'est une période particulière. Quel est le prix de l'indépendance, Rod?
C'est sûr que l'indépendance, elle a un prix. Donc là, pour le coup, effectivement, j'étais complètement indépendant. Donc j'ai voulu expérimenter un petit peu cette indépendance, savoir comment ça se passait. Effectivement, comme on dit, on est beaucoup moins devant la scène, on est moins médiatisé, on est plus, on va faire plus des petits trucs, mais on est indépendant, c'est sûr que c'est un défi, c'est une forme de liberté totale, et on garde le contrôle, mais vraiment à fond, de ses choix, de tout, en fait. Mais c'est vrai que ça a un certain prix, et je regrette rien de tout ça, c'est une expérience, quoi, c'est un choix, quoi, que j'ai fait à un moment donné.
Et dans lequel tu continues à t'inscrire, je crois, finalement.
Alors, oui et non, maintenant, je suis quand même un peu épaulé, quand même, je suis plus en totale indépendance.
Tu es distribué par Inouï.
Voilà, ça c'est sûr. J'ai aussi un booker, j'ai des attachés de presse. Je suis pas totalement indépendant.
Et donc, Sophie Louvet et Bruno Labbadie qui font un extraordinaire travail. Je peux m'entretenir avec eux régulièrement et puis juger effectivement de la qualité de ce travail d'attaché de presse qu'ils font. Ça, c'est important aussi pour continuer à se faire connaître, continuer à faire connaître son actualité.
Ça, c'est sûr. Et là, effectivement, au niveau de la production, je suis indépendant. C'est-à-dire que tout ce qui est conception d'albums, enregistrement, c'est de l'indépendance, mais après, on a tout ça et c'est hyper important. C'est sûr que c'est important. Je dirais que c'est quasiment presque plus important que la musique qu'on va produire, parce qu'il faut la faire connaître, notre musique.
Tout à fait.
Si on fait le plus bel album du monde et qu'il reste dans notre quartier, c'est sûr que c'est pas évident.
Il y a un album vers 2015, pendant cette période-là, qui s'appelle Les filles à l'écoute. Je me souviens d'avoir diffusé dans l'émission, enregistré donc à San Francisco, qui reflète un équilibre entre tes influences blues et rock, tout en intégrant une touche plus mélodique, plus épurée, avec une tour tournée, bien sûr, qui a suivi ça. Je voulais savoir si ce tournant particulier, qui a vu le jour il y a une dizaine d'années, comment est-ce que tu analyses la sortie de ce disque, et puis quelle place, maintenant qu'on est 10 ans après, quelle place il a dans ta discographie, et puis dans ton cœur, ce disque, Les Filles à l'écoute.
Alors, Les Filles à l'écoute, déjà, c'est renoué avec Boris, justement, que j'avais fait deux albums sans ses textes. Ouais. Donc là, on s'était retrouvés à ce moment-là, parce qu'il y avait eu la mort de Bachoum, tout ça, donc je l'avais appelé pour lui dire, ben voilà, lui souhaiter mes condoléances, puis comme ça se passe souvent dans ces coups de temps-là, ben, on est content de se retrouver après, je sais pas moi, peut-être 5, 6 ans, 10 ans ou 6 ans d'absence, et donc on avait décidé de recollaborer ensemble, donc des textes de lui sur cet album, et effectivement, ben, à ce moment-là, c'est le moment où je rechope une maison de disques qui est assez importante, puisque c'est Naïve, et donc c'était un gros label à l'époque, et bon, qui n'existe plus maintenant, mais qui était pas loin d'une major, hein. Et donc à ce moment-là, ben, une visibilité qui revient un peu plus forte, ben, des revenus qui reviennent aussi un peu plus fort, et remise en selle, on va dire, avec cet album-là.
J'ai traversé le Golden Gate Bridge. J'ai découvert une ville magnifique, bordée par l'océan Pacifique. Des femmes et des filles sont toutes magnifiques.
Effectivement, cet album, j'avais voulu aller aux États-Unis tout seul et prendre des musiciens du cru sur place pour connaître cette expérience que j'avais jamais connue avant. En fait, j'étais toujours allé avec mes musiciens. Et donc, avec le recul, j'ai vraiment aimé, hein, parce que j'ai rencontré des musiciens de très haute qualité. Mais par contre, ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour préparer correctement l'album, pour qu'il soit... il aurait pu être beaucoup mieux, cet album, si on avait eu plus de temps pour, par exemple, faire des répétitions, des choses comme ça, un peu plus, parce qu'on est quasiment allé en studio pour l'enregistrer directement.
Ouais, c'est assez particulier. C'est vrai que pas défendre cet album avec les mêmes musiciens, ça peut occasionner peut-être un peu de travail supplémentaire au niveau des arrangements, par exemple.
C'est ça, et puis aussi au niveau de la conception de l'album, parce que moi je l'ai conçu chez moi en acoustique avec des maquettes que je leur avais envoyées, mais malgré que ça soit des musiciens, mais de très 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 haut niveau, puisqu'il y avait Joe Gore, qui est le guitariste de Tracy Chapman, quand même. Donc dessus, il y avait le batteur qui avait joué avec des noms énormes que tout le monde connaît mondialement, quoi. Malgré la qualité de ces musiciens-là, j'aurais bien aimé avoir plus de répètes avec eux pour encore plus peaufiner l'album, quoi.
Peut-être que l'album suivant, Ascendant, Johnny Cash, était plus abouti, je ne sais pas.
Alors celui-là, oui, il a été très abouti puisque justement, on a eu le temps de le répéter. Bon, après, quand je dis répéter, on a répété quoi ? On en a fait 5 de répètes. C'était pas non plus, on n'a pas répété pendant 2 mois. Moi, je connais des gens qui s'enferment pendant 6 mois pour faire un album. Moi, j'ai jamais aimé ça, mais au moins 5 répètes, je trouve, c'est le minimum syndical pour faire un album correct, quoi.
Ouais. Et voilà. Cet album, Ascendant, Johnny Cash, est-ce que ça aurait été une bonne carte de visite pour tourner, je veux dire, de façon intensive aux États-Unis, si ça avait été possible ?
Non, parce que en fait, Ascendant, Johnny Cash, en fait, les gens, alors des fois, ils n'ont pas vraiment compris le sens en se disant oui, tu fais des reprises de Johnny Cash.
Non, c'était, ouais, c'était ça. Pas ça, je me souviens effectivement.
C'était, en fait, ça voulait dire que j'étais plus Ascendant Johnny Cash qu'Ascendant Obispo, par exemple.
Oui.
C'est dans le sens où je préfère écouter Johnny Cash que Calogero, Obispo, tout ça, quoi.
Mais il y avait quand même un côté plus américain, hein, dans cet album par rapport aux deux précédents, par exemple.
Alors, cet album a été, c'était une tuerie au niveau des chroniques. On a eu, je crois, 24 ou 25 chroniques, toutes dithyrambiques. Il n'y a pas une seule chronique qui est mauvaise. Il n'y a pas une virgule de quelqu'un qui a dit oui, il est bien, mais. C'était bien, ouais, tout le temps, quoi. D'accord. En fait, c'était pour le coup, cet album là c'est vrai qu'il m'a boosté, parce que je veux dire, c'était chronique sur chronique, qui arrêtaient pas, ils arrêtaient des superlatifs et tout. Donc à un moment donné, ben il y a aussi les programmateurs qui en France qui m'ont dit, ben il faudrait peut-être qu'on te fasse jouer, il faudrait peut-être que on dirait qu'il y a un truc qui se passe, voilà.
Et pour compléter la question, voilà, il y a certaines interviews dans l'émission dans Sweet Home Chicago, des artistes qui chantent en français justement, qui ont joué aux États-Unis comme toi tu as pu le faire. Il y a beaucoup de gens là-bas qui témoignent de l'intérêt pour les Français qui chantent en français, justement, devant eux.
C'est certain.
Ouais. Tu disais d'ailleurs dans l'interview précédente que tu t'exprimais jamais mieux que dans ta langue natale. C'est toi qui l'avais dit. Est-ce que tu penses qu'il faille vraiment comprendre les paroles pour apprécier un artiste, justement ?
Alors oui, moi je pense que... Bah, alors effectivement, la musique, c'est un langage universel que tout le monde connaît. Hein, peut vibrer sur des notes de musique, tout ça. Mais je pense que comprendre les paroles, en fait, ça ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience musicale. Hein. Donc, paroles, ça permet de mieux saisir, en fait, ce qu'on veut dire, se connecter à nos émotions. émotions. Je veux dire, quand on connaît la qualité des textes d'un Bob Dylan, c'est-à-dire qu'imagine qu'on n'écoute que la musique de Bob Dylan sans écouter ses textes, ça serait quand même une perte énorme quand même, je pense. Donc je pense que oui, c'est sûr que ça participe.
Ça m'amène à la question suivante de Rod Barthé. On connaît vraiment le peu d'appétence des Français en général pour la compréhension des paroles en anglais. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le succès de certains Américains ici, quoi, comme tu viens de citer Bob Dylan, mais il y en a énormément d'autres.
Oui, après, ils sentent le feeling que la personne dégage, en fait, expressivement, en fait, l'expression, ils ressentent ça, mais moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai joué au sonographe, là, dans le sud de la France.
À Avignon,
Voilà, Avignon.
Le
programmateur et patron de la salle me disait, c'est magnifique, en fait, ton concert, parce que tout le monde est ravi, parce qu'on comprend vraiment, tout le monde a compris ce que tu disais, c'était juste bien. Il a même ajouté, en 2024, c'était en octobre qu'on a joué, qu'on était un des meilleurs groupes qui a joué sur l'année 2024.
Wow.
Donc là-bas. Donc je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis. Je lui dis, tu accueilles quand même pas mal de gens ici, quand même des gens quand même de qualité internationale et tout. Il dit oui, mais bon, c'est là où vous avez fait vraiment un super show. Puis en plus, tout le monde a compris ce que tu dis. Ça ajoute en plus une dimension supplémentaire.
Oui, et puis sachant ça, on dit pas des choses comme ça en l'air. Ça a forcément été suite à l'écoute, en tout cas les avis de certains membres du public, forcément.
C'est ça. Donc des gens qui étaient ravis, en fait. Il m'a dit, c'est bien simple, il m'a dit quand vous avez commencé, il m'a dit 10 secondes après le début du concert, j'ai su que ce serait un super concert.
Ah, ça c'est l'expérience qui parle aussi quelque part.
Ouais.
Fragile, elle t'aime si fort ce soir, la fille aux cheveux d'or, elle t'aime si fort ce soir, la fille aux cheveux d'or, la fille aux cheveux d'or, chaleur intense, la dent est sale. Elle t'aime si fort ce soir, la fille aux cheveux d'or. Elle t'aime si fort ce soir, la fille aux cheveux d'or. La fille aux cheveux d'or. La fille, la fille aux cheveux d'or. La fille aux cheveux d'or. Sous les néons, la lumière noire. La fille écrit des heures de gloire. Jeune immortel au visage pâle. L'immoral. Elle t'aime si fort ce soir, la fille aux cheveux d'or. Elle t'aime si fort ce soir, la fille aux cheveux d'or. La fille aux cheveux d'or, la fille.
Alors justement, le blues en français, on peut évoquer Paul Personne, Mil Derem, Benoît Blueboy, Patrick Verbeek, qui ont tous ouvert la voie pour le chant en français dans le blues. Ils sont toujours avec nous, à l'exception de Patrick Verbeek, qu'on évoquait dans la dernière interview et que tu avais rencontré. Je voulais savoir, Rod, quelle était ta réaction à la disparition de Patrick Verbeek en août 21?
Ça m'a profondément touché, forcément. C'est un véritable pionnier du blues en français. C'est un artiste sincère. Il a beaucoup apporté dans la scène blues. Il a ouvert des portes pour des générations comme moi, en fait. Puis maintenant, il manque. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je pense à lui. Moi, chaque fois que je l'ai vu, que je l'ai croisé, on s'est toujours tombé dans les bras, discuté. Ça va, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Machin. Il n'y a jamais eu d'animosité ou de compétition, de choses comme ça. Et donc, c'était quelqu'un qui était profondément humain, de toute façon. Patrick, je veux dire, tous les gens qui l'ont côtoyé le disent. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au backstage, là, à Montrouge, quand la salle a ouvert, il était là-bas, et puis on a trinqué ensemble, on a discuté, et puis j'étais content de le voir.
Help the queen, sans même se donner rendez-vous. Oh, help the queen, sans même se dire I love you. Je suis monté à ton bord sur le quai de la Cité du Nord.
Voilà, Patrick Verbeek, il nous manque à tous, tu l'as bien dit. Rod Barthet, tu reviens avec un nouvel album aujourd'hui qui s'appelle Le Phare des Infortunes, dont on va parler pour cet album, comme pour le précédent. D'ailleurs, tu as travaillé avec un autre parolier qui s'appelle Joseph Danvers. Question ouverte, même à l'infini, on pourrait dire. Qu'est-ce qui t'a apporté, Joseph Danvers, pour 5 de ces 12 nouvelles chansons? Et surtout, qu'est-ce que vous êtes apporté mutuellement?
Alors, Joseph, on avait déjà collaboré dans l'album précédent, et puis j'avais bien aimé le ressenti. En fait, les mots qu'il m'a écrits, en fait, me correspondent bien, ils décrivent bien ce que j'ai envie de faire passer comme message, parce que on se parle, tu vois, puis lui c'est pareil, on se cerne, donc lui quand il va écrire un truc ou quelque chose, un texte va plus correspondre à quelqu'un, donc ce qu'il m'apporte c'est qu'il comprend le message que j'ai envie de véhiculer, donc parfaitement, et puis après moi ce que je lui apporte, je sais pas, il faudrait lui demander à lui.
Effectivement, oui, complètement. En tout cas, c'est un travail dans lequel tu t'es forcément épanoui. On travaille pas deux fois de suite avec une personne avec qui ça se passe qu'à moitié, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Nous voulions toujours plus de l'amour en concert, de l'alcool et des rêves, de tout pour que l'on se serve. Du style et du facile, le goût d'une cigarette. Nous étions presque rien, libres et insouciants. Nous suivions le chemin, insoumis et élégants. Des chaos, des coups de sang. Nous étions frères de sang, à la vie, à la mort. Des chaos, des coups de sang, la victoire qu'en chantant. Pour un jour, pour toujours, on y croyait si fort. De céleste vaurien, moderne et flamboyant, on emmerdait demain. Nous voulions toujours plus des palaces et des fêtes, des chaos, des coups de sang et la victoire en chantant. Des chaos,
Tu dis à propos de l'enregistrement de cet album, je te cite, ouvrez les guillemets, donc c'est Rod Barthé qui parle. Les murs de cette ferme transformée en studio résonnaient de la magie des mots partagés avec mes invités, donc Fred Chapelier, Neil Black et Eric Sauvia. J'ai pu composer et tisser mes mélodies qui reflètent à la fois la beauté de la nature environnante et les complexités de la vie quotidienne. Alors, je ferme les guillemets, maintenant je voulais savoir si tu valides cette analyse de tes textes, parce que c'est ça qui est important. Les thèmes abordés dans cet album, ça tourne d'abord autour de l'amour, mais aussi l'absence, les voyages, l'argent, le mensonge, la nostalgie de certains valeurs ou du moins de certaines certitudes passées, c'est ça ou il y a encore d'autres choses?
Non, c'est ça, ouais, t'as bien résumé, ouais, il y a tout ça en même temps, ouais, c'est sûr qu'il y avait un thème que j'avais jamais traité un peu de société qui est l'argent. Je voulais traiter depuis un moment, c'est sûr que c'est sympa aussi.
L'argent que certains placent au tout début de tout et puis que toi tu places en 12e position, c'est le dernier morceau de l'album en fait. Hein.
C'est sûr que en fait on voit bien, hein, l'argent c'est vraiment, c'est central, hein, dans notre société, hein, c'est quelque chose qu'on est confronté tous les jours, on l'utilise tous les jours, on voit dans le monde ce que ça fait, hein, l'argent, oui. Ça fait tout, quoi, les guerres, la paix, on fait tout avec ça en fait.
Est-ce qu'on peut vivre sans un? J'imagine que oui, dans un monde différent. L'argent, c'est la surconsommation. L'argent fait tourner le monde, elle fait même tomber des bombes. L'argent, est-ce qu'on peut vivre sans un? J'imagine que oui, dans un monde différent. Sans, j'imagine que oui, dans un monde.
Et si on s'attarde plus particulièrement, Rod, sur le titre Le phare des infortunes, est-ce que, avec un peu de recul, je sais pas si tu peux en prendre parce que l'album vient de sortir, mais est-ce que tu penses que ces paroles auraient pu figurer, sous forme de poème, dans Les fleurs du mal de Charles Baudelaire?
Alors ça, je sais pas. Je sais que là-bas, il y a eu...
Tu vas me dire, il faudrait demander à Charles Baudelaire, mais il répond plus à mes SMS depuis un moment.
Je sais que j'ai eu une chronique là, récemment où il y a quelqu'un qui disait que les mots prenaient tout leur sens et le mot poésie prenait son sens original. Voilà. Ça m'a beaucoup touché de lire ça, en fait, de dire que quelqu'un avait eu ce sentiment en écoutant l'album. Mais moi, je dirais que oui, le phare, il symbolise une lumière dans l'obscurité, une sorte de guide de l'incertitude, quoi, quelque chose, l'espoir, la solitude, une attente, quelque chose d'inaccessible, quoi. Quand on regarde un phare, en fait, une quête sans fin, on essaie d'attraper ce truc-là, en fait. C'est une lumière, en fait, un peu, qui peut être à distance. Quelque chose qu'on essaie d'attraper, qu'on ne peut pas saisir.
Quelque chose d'inaccessible et peut-être un Graal, on ne sait pas.
C'est ça, c'est ça, une espèce de truc qui est dans la brume, voilà, le phare des infortunes. On aimerait bien l'avoir, mais on ne l'a pas, en fait.
Au loin, les lacs gelés. Au loin, les hommes de bien. Au loin, les phares si loin. Au loin, demain. Enfin, les terres promises. Au loin, les femmes. C'est un monde que je pleure quand la lumière se meurt. Au loin, les terres. Sombre, si loin le phare, si loin, au loin les territoires, les tristes revoir. C'est un monde que je pleure quand la lumière se meurt. Thank you.
Donc tu as choisi Le Phare des Infortunes pour intituler ton album entier, mais je voulais savoir, Rod Barthé, quel est ton titre favori de ce dernier album?
Alors, y en a-t-il un? Oui, bah, là en fait, comme tu viens de le dire, c'est tellement chaud, en fait, comme il est tellement tout neuf, que quand c'est neuf comme ça, en fait, on a tendance un peu à tous les aimer, parce que s'il y en a que j'aimais pas, je l'aurais pas mis sur le disque. En fait, pour l'instant, en fait, évidemment, il y en a certains qui se détachent un peu, mais je peux pas dire qu'il y en a que vraiment que j'adore et puis que les autres, je trouve que c'est un peu moins bien. Je pense que pour moi, pour l'instant, il y en a pas un où je me dis, oh, celui-là, j'aurais pu ne pas le mettre, quoi.
Alors, je vais poser la question différemment. Rod, s'il y avait pas eu le titre Le Phare des Infortunes, s'il y en avait eu que 11, ça aurait été quel titre pour l'album?
Ah, quel titre pour l'album? Bah, alors, moi, j'avais pensé à un truc comme, je pense, que ça a déjà été pris, Jamais Soumis, ou alors, il y avait La Fille aux Cheveux d'Or, L'Archange de l'Immoral. Il y avait plusieurs titres qui avaient été évoqués. Après, Le Phare des Infortunes, je trouvais que c'était un peu abstrait, un peu plus poétique que La Fille aux Cheveux d'Or, par exemple. Ça s'est fait naturellement, voilà.
D'accord. Rod, je voulais savoir, de façon un petit peu plus globale, quelle est la place de ta production et puis celle de tous les artisans de la musique, tels qu'on en admire la noblesse dans cette petite émission, face aux interprètes surmédiatisés? Je veux dire, comment continuer de survivre en 2025 face à une mondialisation et une globalisation des styles musicaux?
Ah, ça, c'est sûr que là, on est confronté. Et puis en plus, avec le numérique maintenant, c'est une tuerie. Puis il y a la place avec les algorithmes, l'intelligence artificielle, l'argent justement qui est placé de façon qui coule à flot sur certains artistes pour justement qu'ils se démarquent des autres. On voit que la clé, moi, je pense que c'est la sincérité, en fait, d'être vrai, de suivre son propre chemin, pas se confronter aux attentes du marché, d'être authentique, pas suivre les modes, être vraiment soi-même. Mais bon, effectivement, on peut être tout ça à la fois et être noyé dans le flou, quoi. Hein. Ouais. C'est sûr qu'on connaît, toi, on connaît énormément, je pense, en France, notamment dans le blues.
Beaucoup d'artistes de talent, bien sûr, qui n'ont pas toute la lumière qu'ils méritent, on est bien d'accord. Hein.
C'est effectivement ça, je veux dire, quel que soit le statut de l'artiste, je veux dire, chaque artiste à son niveau aimerait progresser un peu plus, hein, ça c'est clair. Mmh.
Dans la présentation à la presse de ton album Le Phare des Infortunes, il est écrit que tu t'imposes comme une référence dans la lignée de Paul Persson ou Hubert Félix Stéphane, deux artistes qu'on n'avait pas encore cités. Est-ce que ce sont des artistes que tu admires particulièrement? Et puis, est-ce que tu as déjà collaboré avec eux ou est-ce que tu souhaiterais le faire si ce n'est pas le cas?
Alors, c'est deux artistes que je connais, hein, donc j'ai déjà côtoyé, donc Paul Persson, bah, quand on se voit pareil, on se fait la bise, tout ça. Je ne peux pas dire que c'est un ami, mais disons que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé de façon régulière, hein, au cours de toutes ces années, puisque forcément, évoluant dans le même style de musique, dans le même milieu, on arrive forcément à se croiser. Collaborer avec lui, je sais pas forcément, non, c'est pas une attente. Après, TFN, c'est quelqu'un qui est dans ma région, donc c'est quelqu'un, voilà, qui habite à côté de Dole. J'ai côtoyé aussi forcément plusieurs fois. Fut un temps, ça m'aurait plu de collaborer avec lui, mais maintenant, en fait, je sais pas, en fait, je pense pas, non, je sais pas quelqu'un avec qui, si tu me demandais là tout de suite, avec qui t'aimerais collaborer.
Ça serait pas eux.
Ça serait pas eux, non, ouais. Ça serait pas eux, malgré que j'aime énormément ce que fait Paul Persson et TFN, hein. C'est pas du tout artistique, mais si on me demandait là avec qui j'aimerais collaborer, ce serait pas eux, en tout cas en artiste français, quoi.
Ça serait voilà. Qui alors, dis-moi?
Moi, en artiste français, c'est des artistes qui sont pas forcément dans le blues, mais il y a quelqu'un que j'aime profondément et j'aime beaucoup son parcours, sa philosophie, son idée de vie, c'est Manu Chao.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Et voilà, donc si on me disait, tiens, on t'offre la possibilité, ça serait, je dirais lui en premier, et après, si on me disait, ben non, on peut pas avec lui, mais il y a peut-être un autre, ça serait Mathieu Chedi, par exemple.
D'accord, hein. D'accord. On n'est pas tout à fait dans la même famille, mais presque. Hein. Et c'est vrai que là, dans cet album, on retrouve Eric Sauvia qui participe à toutes les plages. Et puis ensuite, en invité, il y a Fred Chapelier et Neil Black. Plus particulièrement sur Fred Chapelier, votre amitié, votre connaissance mutuelle et reconnaissance mutuelle du talent de l'autre, elle date de longtemps.
Bah alors Fred, bah, c'est pareil, hein, c'est comme avec Paul Persson, c'est qu'on se connaît depuis un moment. Je veux dire, moi j'ai joué avec son premier batteur, la Pat Macheneau, longtemps. Donc on a des amis en commun, tout ça. Cette rencontre, bah, ça s'est fait pareil, naturellement, il n'y a pas eu besoin de forcer, je veux dire, ça n'a pas été des amis qui ont dit, ouais, tu devrais faire avec, c'était vraiment hyper fluide, hein.
Ouais.
Et Fred, c'est quelqu'un que j'aime énormément, j'ai répondu à une interview là, dans Blues Magazine, pour moi, c'est lui le meilleur guitariste en France.
Faire renaître votre cœur. Bye.
D'accord.
Donc, comment, de blues. Hein. Ouais. Je veux dire, quand il joue, quand il met ses doigts sur sa guitare, qu'il commence à faire un solo, il se passe vraiment quelque chose d'assez intense. Hein.
Et puis on s'en rend compte dans ton album, hein, parce que là, il partage la guitare sur trois titres et deux morceaux très lents dans lesquels il s'y donne à cœur joie, mais justement pas avec 50 000 notes à la seconde. C'est vraiment beaucoup d'intensité et puis d'émotion, un petit peu comme dans son hommage à Gary Moore, par exemple. Ouais. J'ai retrouvé un peu ces sonorités-là.
En fait, voilà, Fred, c'est quelqu'un qu'au service de la musique, il n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire que lui, c'est un super guitariste. Il n'a plus besoin de montrer aux gens qu'il sait jouer de la guitare, quoi. Lui, il joue de la guitare, voilà, c'est pour être au service de la musique. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Hein. Je veux dire, là, il y a une vidéo qui va sortir, là, on est ensemble sur scène, là. On voit qu'on prend du plaisir, les deux. Hein.
Ouais, d'accord, ça coule de source, en fait, c'est ça qu'on peut dire. Avant d'aborder les dernières questions par rapport à l'actualité, Rod Barthé, je voulais te poser une petite question bonus par rapport à la couleur verte, le vert, la couleur de l'espérance qu'on retrouve sur ta guitare, sur tes pochettes de disques, sur l'habillage de ton site, peut-être chez toi aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Pourquoi le vert?
Mais écoute, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette guitare à un moment donné sur Paris. En fait, à l'époque, c'était un attaché de presse autre que Sophie et Bruno qui travaillaient avec moi, qui est allé la chercher en fait, et elle était verte. Mmh. Donc moi, c'est une couleur que j'aime bien, je l'ai achetée, et donc maintenant ça fait partie de mes guitares, et maintenant j'ai une blanche aussi, parce que Eric justement avait la même en blanc chez lui, Eric Sauvia, il me dit écoute, je la joue jamais cette guitare, est-ce que tu l'as vu? Et moi j'avais une Gibson SG que je jouais jamais, donc on a fait l'échange, il m'a donné un petit complément, parce que c'est vrai que les jeux étaient un peu plus chers, et donc maintenant j'ai aussi une blanche, voilà.
D'accord. Alors, Rod Barthé, on va te retrouver en concert le lundi 19 mai 2025 au New Morning à Paris, avec ces trois invités de renom qui figurent sur ton album, Fred Chapelier, Neil Black, Eric Sauvia. Je voulais savoir, comment imagines-tu cette soirée? Comment ça va se passer le lundi 19 mai?
Alors, ça va se passer, donc il va y avoir deux sets, hein, comme tout le temps New Morning. Donc moi, je vais commencer par faire un set, on sera les quatre, avec donc Eric Sauvia, le bassiste, le batteur et moi-même, donc on va jouer pas mal de mes compos. Et au deuxième set, je pense que déjà pour commencer avec le premier morceau, il y aura Fred qui va arriver. Après, on va rejouer un ou deux morceaux, les quatre, et après, tous les invités vont arriver, donc soit ils vont tous jouer les morceaux qu'ils ont joués sur l'album.
Ouais.
Et en plus de ça, il y aura Fred va jouer deux morceaux à lui, en fait, de ses propres compos, en fait, de son album à lui, des compos à lui, où ça sera lui qui sera en leader et nous en backing band, et ainsi de suite pour les autres invités, Neil Black et Eric Sauvia. Donc les gens vont avoir un vrai récital, on va dire, et aussi les gens qui aiment Fred, en fait, ils vont retrouver aussi le Fred qu'ils connaissent.
Et puis c'est vrai que le public du New Morning le connaît bien, avec le batteur, c'est le même que dans l'album, j'imagine, l'autre, et puis le bassiste Linel Carmon, c'est bien ça?
Voilà.
Et puis, toutes ces infos, on peut les retrouver, bien sûr, sur ton site internet, rod-barthet.com. Quels sont tes projets, au-delà de cette release party qui se déroulera le 19 mai?
Les projets, c'est de jouer, hein, donc d'autres dates vont arriver, et on va faire un autre clip aussi, on va clipper le morceau d'Archange de l'Immoral. La presse, il y aura d'autres choses, parce que là, c'est pareil, on est en pleine promo, donc il y aura d'autres trucs, mais oui, c'est jouer, en fait. Hein, oui.
Rod Barthé, la dernière minute, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Quel message leur adresserais-tu?
Pour ceux qui, je leur dirais de rester simple, en fait, de continuer d'être eux-mêmes. La musique, c'est une aventure collective, donc aussi, je suis heureux de la partager avec eux aussi, pour ceux qui me suivent. Et puis, je suis reconnaissant aussi du public qui me soutient, puis des gens qui me soutiennent. Je vois qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui ont adhéré à cet album. Hein. Donc, ça, c'est bien, quoi. Voilà.
Très bien.
Mais surtout, rester simple.
Merci, Rod. Rod Barthé, l'album s'appelle Le Phare des Infortunes, chez Inouï Distribution. On peut le trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Puis également, vous pouvez, je vous rappelle, aller sur www.rod-barthet.com pour toutes les infos et puis notamment les prochaines dates de concert. En tout cas, le 19 mai, voilà, ça serait bien sympa de s'y retrouver ou de s'y trouver tous ensemble au New Morning à Paris.
Je pense que ça va être une belle fête parce que franchement, on l'a déjà fait une fois sur scène et les gens étaient debout à la fin. Ils en voulaient, c'était vraiment. Et les sourires, de tout le monde, aussi bien de Fred, de Neil, de Eric, on était vraiment très joyeux sur scène et on voyait qu'on prenait tous du plaisir. Il n'y a aucune compétition entre nous et ça, c'est excellent.
C'est important. Ouais. C'est important à savoir. Merci beaucoup. Merci pour tout ça, Rod Barthé. À très bientôt.
À très bientôt. Merci, Marc.
Au revoir. Merci.
besoin de t'évader, tout oublier, te déconnecter. Tu peux compter sur moi, appelle-moi, viens vers moi. Je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Complètement désorienté, tu sais plus vers qui te tourner. Tu peux compter sur moi, appelle-moi, viens vers moi. Je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Sur moi. Tu peux compter sur moi.
C'était l'interview de Rod Barthé avec pas mal d'extraits musicaux. Tout d'abord Johnny Hooker avec Big Road, 10 Years After pour I'm Going Home, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble pour Pride and Joy, et puis Johnny Winter pour Highway 61 Revisited, repris au répertoire de Bob Dylan. Et puis ensuite sur l'album Ascendant Johnny Cash par Rod Barthé, Amour ma fêlure, La fête à San Francisco, encore un extrait de l'album Les filles à l'écoute de Rod Barthé. Et puis ensuite on est allé explorer Le phare des infortunes, le dernier album de Rod Barthé, avec l'archange de l'immoral, la victoire en chantant, l'argent, le phare des infortunes, et puis avec Fred Chapelier, devenir vos larmes, madame, et avec Neil Black, tu peux compter sur moi, sans oublier bien sûr ce petit passage avec l'ami Patrick Verbeek, Delta Queen. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Il s'agit de Jackie Emery pour le 55e numéro de Beatles Song Story, et en deuxième heure, pour leur carrière, leur actualité et leur bonne humeur, ainsi que leur talent, le pianiste chanteur Dave Keys et le guitariste chanteur Chris Bergson. Salut, bye bye. Back to that same old.